VOA Afrique, les infos. À Washington.
À Washington, Jean-Roger Billon, il est 6h à Washington et 11h en temps universel. Bienvenue, la cause contre la montre au Congrès américain. Si les parlementaires américains ne s'entendent pas sur un nouvel accord sur le budget, d'ici demain minuit, l'administration fédérale pourrait mettre le personnel non essentiel en chômage technique, faute de financement. Abdou Ramandia.
À un jour de l'échéance, le Congrès est encore loin d'un accord. Les républicains accusent les démocrates de freiner l'adoption du budget afin de renforcer leur position dans les négociations parallèles sur la question ultra sensible de l'immigration. Les démocrates réclament un accord sur les Dreamers, ces jeunes entrés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants, et sur le programme fédéral d'assurance santé pour les enfants pauvres. Le président Donald Trump a abrogé le programme DACA qui a permis à près de 700 000 Dreamers de travailler et d'étudier en les protégeant de l'expulsion. Et la récente sortie présumée de Donald Trump sur Haïti et les pays africains a envenimé les débats. Les démocrates refusent aussi de financer le mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Bien que minoritaire, les démocrates peuvent tout bloquer au Sénat, où une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 sera requise pour faire passer le budget.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, élu le mois dernier à la tête du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir, s'est félicité aujourd'hui des procédures judiciaires engagées contre des entreprises accusées de corruption. L'autorité judiciaire nationale, NPA, a commencé à agir et nous nous félicitons des actions qu'elle entreprend et nous l'encourageons à agir d'urgence, a déclaré Ramaphosa dans un discours télévisé qui tente de se démarquer des scandales entourant le gouvernement du président Jacob Zuma. Des élections auront lieu dans un délai de 4 à 5 mois au Zimbabwe, a déclaré le nouveau président Emmerson Mnangagwa, cité aujourd'hui par le quotidien national Herald. Il s'agira du premier scrutin organisé sans Robert Mugabe depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1980. Nous ferons en sorte que le Zimbabwe produise des élections libres, crédibles, équitables et indiscutables, afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'État démocratique qualifié, a fait savoir le nouvel homme fort d'Harare. Ce scrutin sera suivi de près par la communauté internationale qui en a fait un test de crédibilité crucial pour le déblocage de l'aide financière. Le gouvernement de Brazzaville, c'est au Congo, et les rebelles du Poule se sont rencontrés pour la première fois hier à Brazzaville pour l'application d'un accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 2017. Les rebelles congolais avaient pris les armes en contestant la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. Les attaques des rebelles et la réponse militaire ont mis 138 000 personnes en situation humanitaire difficile dans ce pays d'Afrique centrale d'à peine 5 millions d'habitants. Les violences avaient aussi entraîné l'arrêt en novembre 2016 de l'exploitation du chemin de fer océan Congo-Océan, Brazzaville et Pointe-Noire, principal axe du pays. Les 12 représentants du gouvernement et ceux en nombre égal du pasteur Ntoumi vont discuter pendant 3 ou 4 jours selon le ministère de l'Intérieur. Un mort et une dizaine de blessés, c'est le bilan d'une fusillade hier dans le PK5 à Bangui, en République centrafricaine. Une altercation entre hommes armés a provoqué l'incendie de magasins au grand marché de la capitale centrafricaine. Les détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Un calme précaire règne en ce moment dans le PK5. Dans la matinée, ce grand quartier commercial de Bangui a été secoué par des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique. Selon Djibril Youssouf, président de l'association des commerçants, joint par VOA Afrique, tout est parti d'une bagarre entre un élément armé et un commerçant chez qui il venait prélever les taxes. Propos rejetés par Almiri Matar, alias Force, un des chefs des groupes armés du PK5, affirmant, je cite, « Il y a eu jet de grenades sur le terrain de football et une personne a été tuée lorsque les éléments autodéfense ont voulu réagir. On leur a également lancé une grenade. » Fin de citation. Bilan provisoire, un mort, une douzaine de blessés et plus de 10 magasins brûlés par les hommes armés. Le président des commerçants hausse le ton.
Nous demandons au gouvernement et à la MINUSCA de prendre les responsables, de mettre l'ordre dans le kilomètre 5. On a fait déjà marre de ça. À chaque fois sur l'autodéfense, on a fait marre. La population respire en demi.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La garde à vue a été prolongée pour 22 Sénégalais arrêtés dimanche dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le massacre le 6 janvier de 14 jeunes gens dans la forêt protégée de Bayotte. proche de Ziguinchor, principale ville de la Casamance, une région bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. La contestation sociale s'est poursuivie mercredi à Jerada, ancienne ville minière du nord-est du Maroc, en dépit d'un plan d'urgence proposé pour répondre aux attentes des habitants. Ce mouvement a été provoqué par la mort accidentelle fin décembre de deux frères piégés dans un puits désaffecté où ils cherchaient du charbon. Depuis, des rassemblements pacifiques dénoncent régulièrement l'abandon de cette ville économiquement exsangue depuis la fermeture de ses mines en 1998.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'Urne le Roi a fait face à sa crise financière la plus grave depuis 1949, année de sa création. L'annonce par les États-Unis d'un gel de leur aide à l'agence onusienne de secours des réfugiés palestiniens est un coup dur. L'Urne le Roi apporte son aide à une grande partie des plus de 5 millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban ou en Syrie. Claire Morin-Gibou a joint le chercheur de l'Institut français du Proche-Orient basé à Amman, Jalal Al-Husseini.
Ça fait partie de la nouvelle orientation de l'administration Trump, qui est de prendre des décisions assez nettes et tranchantes qui visent à résoudre le plus rapidement possible le conflit israélo-palestinien, mais là dans un sens qui épouse les thèses israéliennes, c'est-à-dire, on l'a vu il y a quelques semaines, donc reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État israélien. Et là, on s'attaque à la question des réfugiés, en s'attaquant à l'UNRWA. Donc, il s'agit de la question cruciale de la contribution budgétaire des États-Unis au budget de l'UNRWA.
Concrètement, comment cela va-t-il se ressentir sur le terrain?
Eh bien, déjà, l'UNRWA a pris quelques mesures. Vous savez que l'UNRWA, d'abord, est une agence temporaire et 95% de son budget est financé par des contributions volontaires des États de la communauté internationale. Et donc, cela l'expose, l'a toujours exposé à des crises financières. Ce n'est pas la première, mais cette fois-ci, elle est très importante, puisque là, vraiment, les États-Unis ont coupé de moitié leur contribution. Alors, ce qu'a fait l'UNRWA, c'est ce qu'elle a fait durant les autres crises. On commence par supprimer les travailleurs temporaires de l'UNRWA, par exemple. Et donc, déjà, de nombreux postes d'enseignants, de travailleurs dans les camps de réfugiés pour la maintenance, etc., ces postes ont été supprimés. Et d'autres postes seraient supprimés. Pour l'instant, disons, le fonctionnement, les écoles fonctionnent encore. Hein, le staff permanent est toujours en place. Pour l'instant. Et donc, l'UNRWA n'a que d'autres choix pour l'instant, soit de faire pression sur les États-Unis de façon à ce qu'ils reviennent sur sa décision, ou alors de chercher plus d'argent des autres contributeurs volontaires, notamment de l'Union européenne, ou alors des pays arabes, et en particulier des pays arabes du Golfe, qui n'ont pas été des grands financiers de l'UNRWA jusqu'ici. Donc on pourrait leur demander un peu de mettre plus d'argent à contribution.
Est-ce que pour vous, cela peut envenimer le conflit israélo-palestinien?
Oui. Alors vous voyez, l'UNRWA a deux dimensions. Donc une dimension opérationnelle, c'est la question des services. Et puis l'UNRWA est devenue, hein, depuis des décennies maintenant, le symbole de la responsabilité onusienne, de la responsabilité des États de résoudre le problème des réfugiés de manière juste. Et pour les pays arabes, c'est la résolution 194 qui stipule que les réfugiés devraient soit avoir le droit de retourner à leur maison d'origine ou alors de recevoir une compensation. Donc s'attaquer à l'UNRWA ici, cela signifie déjà vouloir enterrer la question des réfugiés avant qu'elle soit négociée. Et c'est ça qui est en jeu également. Donc cela risque d'envenimer la situation et on risque d'avoir dans ces prochaines semaines, si les États-Unis ne reviennent pas sur leur décision, eh bien on risque d'avoir des écoles qui ferment, des dispensaires qui ferment et donc on risque d'avoir des manifestations et des troubles dans la région.
Jalal Al-Husseini, chercheur de l'IFPO, Institut français du Proche-Orient. Le ministre afghan des Affaires étrangères, Salahuddin Rabbani, a annulé sa participation à la réunion spéciale du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan prévue vendredi à New York en raison d'une crise politique entre la présidence et l'homme fort du Nord. Cette décision confirme la gravité des tensions apparues entre le gouvernement et Atta Mohamed Nour, membre du parti Jamiat-e-Islami, que préside M. Rabbani qui refuse de quitter son poste de gouverneur de la province de Bakr depuis un mois. 52 personnes sont mortes et 5 ont survécu aujourd'hui quand l'autocar qui les transportait a pris feu dans le nord-ouest du Kazakhstan. L'accident a eu lieu dans la région d'Aktobe, la principale ville du nord-ouest du Kazakhstan, non loin de la frontière russe, a annoncé le ministère kazakh des situations d'urgence dans un communiqué. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous et à bientôt.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.